Les mémoires dans la peau. Une émission présentée par Jean David sur Campus Grenoble.
Il était une fois, dans un petit village d'Espagne, une jeune fille nommée Carmen et sa grand-mère bien-aimée Isabella, une ancienne danseuse de flamenco. Isabella avait transmis à Carmen son amour pour la danse. Ensemble, elles passaient des heures à danser dans leur jardin. Un jour, Isabella tomba gravement malade et mourut, laissant Carmen inconsolable. En rangeant les affaires de sa grand-mère, Carmen trouva une boîte contenant des chaussures de danse et une lettre. Il était écrit « Ma chère Carmen, porte ces chaussures lors du prochain bal de la pleine lune et danse dans notre jardin. Je serai là, avec toi, à chaque pas. » Le soir du bal, Carmen enfila les chaussures et dansa sous la pleine lune. À mesure qu'elle dansait, l'esprit d'Isabella apparut et elles dansèrent ensemble, partageant histoires et souvenirs. À l'aube, Isabella disparut, laissant Carmen avec son cœur apaisé et un amour éternel. Depuis ce jour, Carmen dansa chaque année lors du bal des souvenirs, invoquant sa grand-mère et transcendant la mort. Ce soir, je vous propose une autre histoire filiale méditerranéenne bien réelle, qui se mêle à la grande histoire du XXe siècle, faite d'engagement, de combats politiques et de migration. Il sera aussi question de danse pour invoquer un être aimé au-delà de la mort. C'est l'histoire de Loris et de sa petite fille qui se raconte. Les mémoires dans la peau, saison 2, épisode 9. Il y a des choses que j'aurais aimé te dire.
Je m'appelle Nour, j'ai monté la micro-compagnie en 2018 avec une personne qui s'appelle Anna Hidat. La micro-compagnie, elle est entre Arles et Grenoble. On a plusieurs spectacles dans cette compagnie, dont le spectacle « Il y a des choses que j'aurais aimé te dire », que j'appelle « Solo à deux voix », où je raconte l'histoire de ma grand-mère que j'ai enregistrée il y a 4 ans environ. Ma grand-mère, elle est née en Égypte, au Caire, enfin mes grands-parents d'ailleurs, mon grand-père, je parle beaucoup de ma grand-mère parce que j'ai pas connu mon grand-père, mais ma grand-mère, elle est née en 1923, si je me trompe pas. Mon grand-père, je sais pas, autour de 1920, mais je sais pas quand. Arrivé vers l'âge adulte, ils se sont très fort politisés, mon grand-père, il faisait partie de beaucoup d'organisations communistes en Égypte, ils étaient juifs tous les deux. Et dans les années 45, il y a la montée des frères musulmans au pouvoir qui choisit d'expulser toutes les personnes qui étaient problématiques et subversives au pouvoir. Mon grand-père, qui faisait partie de beaucoup d'organisations, était dans le giron et a été emprisonné à ce moment-là. Il a été emprisonné à Alexandrie pendant un moment. Et jusqu'à ce qu'on leur propose de quitter le pays pour retrouver la liberté. Enfin, c'était ça, ou rester emprisonné. Sur ce laps de temps, mes grands-parents se sont mariés, ils étaient expulsés en direction de l'Israël. En tout cas, ma grand-mère, de ce que j'en sais, n'avait pas du tout envie d'aller en Israël, ça ne lui parlait pas, elle se sentait pas concernée par cet endroit. Elle rêvait de la France, elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup lu de livres et je crois qu'elle était très attirée par la France. Ils avaient aussi beaucoup d'amis qui avaient atterri en France. Il y a une grande communauté juive égyptienne communiste d'organisation politique qui arrivait en France dans ces années-là. Donc ils avaient un réseau, ils avaient des amis. Et donc, embarquant sur le bateau, il y a eu des choses qui là m'échappent complètement sur des questions de trajectoire. Mais de fait, ils se sont trouvés dans un camp à Marseille. En transit et ils ont décidé de s'enfuir de ce camp et de rejoindre des amis à Paris qui les ont aidés. Et voilà comment mes grands-parents, entre 48 et 50, sont arrivés en France. Ils sont arrivés à Paris, ils se sont fait donc aider par des amis pour trouver un appartement, trouver du travail. Assez rapidement, ma grand-mère est tombée enceinte de son premier enfant, et puis de son deuxième, et voilà, mon grand-père a trouvé du boulot, c'était une époque où je ne voudrais pas dire trop de bêtises, mais en tout cas, mon grand-père a eu des grandes facilités à obtenir des papiers. Je pense que c'était plus facile qu'aujourd'hui. Et du coup, ils ont pu, après un certain temps, demander la nationalité française. En tout cas, ils ont eu un permis de séjour facilement pour rester, moyennant un petit passage en garde à vue, que ma grand-mère raconte comme 2 heures de garde à vue. Bon, je ne sais pas exactement ce que c'était, mais en tout cas, voilà, ils n'ont pas été très emmerdés par leur fuite du camp et par leur arrivée en France de manière illégale. Donc, c'était peut-être une chance à l'époque de ça. On n'en est pas là aujourd'hui, malheureusement. Ils ont obtenu des papiers, ils ont pu travailler et mon grand-père s'est brouillé. Très bien, il a gagné beaucoup d'argent et mes grands-parents ont progressivement trouvé une vie assez confortable. Ils ont continué à militer en France, ils ont continué à être actifs sur le plan politique communiste, à traduire des choses, à faire passer. Je crois qu'il y a une histoire assez sombre de faire passer de l'argent en Suisse. Enfin bon, il y avait voilà des choses dont ma grand-mère se rappelait pas beaucoup, mais ils ont continué à exercer avec des groupes d'organisations politiques en France. Quelque chose dont ma grand-mère m'a beaucoup parlé pendant nos temps d'échange, c'était de cet amour immense pour mon grand-père et toutes les choses qu'elle a fait pour que leur relation tienne dans le temps malgré les difficultés qu'ils avaient. Mon grand-père est décédé assez jeune, elle est restée veuve et célibataire jusqu'à sa mort. Elle parlait de mon grand-père comme vraiment le grand amour de sa vie et souvent même elle se minimisait un petit peu à côté de mon grand-père alors qu'elle a fait aussi plein de choses de son côté. C'était quelqu'un de très engagé sur des plans politiques féministes, etc. Mais elle minimisait beaucoup, donc on avait l'impression qu'il y avait un peu que mon grand-père qui existait et que elle existait au travers de ses yeux à lui. Quand je dis que c'était quelqu'un d'assez militant sur un plan féministe aussi, c'est quelqu'un pour qui c'était très important le droit des femmes, qui a imposé à son mari l'avortement parce qu'elle n'était pas prête à avoir des enfants, qu'à cette époque-là c'était illégal en France l'avortement et qui du coup est partie en Suisse pour le faire à 2 reprises. Elle a fait aussi d'autres choses dont elle m'a pas forcément parlé, mais en tout cas, l'avortement pour elle, la contraception, c'était des choses très importantes dans la vie d'une femme. Et c'est quelqu'un qui voulait pas avoir d'enfant. Enfin, ma grand-mère, elle était très. Elle voulait rester libre de ça, et c'est beaucoup mon grand-père qui a insisté pour avoir des enfants, dont il a eu beaucoup de mal à s'occuper, comme peut-être beaucoup d'hommes de cette génération, peut-être d'autres générations aussi, mais en tout cas à cette époque-là, c'est beaucoup elle qui a porté la charge de la famille. Et c'était difficile pour elle d'assumer cette responsabilité-là. Donc j'imagine que ça avait aussi un lien avec la bataille qu'elle avait pour le droit à la contraception, à l'avortement. Je ne sais pas à quel point c'est quelque chose qui m'a été transmis par elle directement ou pas. En tout cas, pour moi, c'est des sujets qui sont très importants dans mon quotidien, dans ma vie, sur autant les questions féministes, de droits des femmes, enfin en tout cas de droits des minorités, et des questions aussi sociales. Ma grand-mère, elle se revendiquait communiste. Aujourd'hui, je ne sais pas très bien à quoi ça appartiendrait. Dans ce qu'on traverse actuellement, mais en tout cas, je sens que j'ai grandi dans des valeurs très sociales et que ça imprègne ma manière d'être au monde aujourd'hui, que ce qu'on traverse actuellement, c'est des choses qui me terrorisent et que j'ai envie de pouvoir faire ce que je peux faire. Actuellement sur le plan de la lutte, voilà, je pense que pour moi c'est très important les questions politiques. Enfin, en tout cas là avec les élections qui viennent de passer, qui arrivent, on peut imaginer que ça va précariser beaucoup le droit des étrangers et les possibilités de passer d'un pays à l'autre pour certaines personnes et que ça me touche très fort parce que voilà, moi j'ai mes grands-parents, ils venaient chacun, enfin en tout cas leurs parents de Palestine, de Syrie, et c'est ben, la Palestine aujourd'hui. C'est des situations hyper complexes. Mes grands-parents, ils auraient dû aller en Israël. Enfin, je veux dire, je suis pas du tout à côté de ces questions-là. Au contraire, je me sens d'une certaine manière assez concernée ouais, par ce qui se joue actuellement en politique. La judéité, elle se transmet de la mère à la fille, et que je ne sais pas qui étaient mes arrière-grand-mères, mais en tout cas, il s'avère que mon arrière-grand-mère était juive, donc ma grand-mère était juive, donc ma mère était juive, donc moi je suis juive. C'est la raison pour laquelle mes grands-parents auraient dû aller en Israël à cette époque-là, parce qu'on envoyait les juifs en Israël. Mais mes grands-parents étaient ni l'un ni l'autre pratiquants. Ma grand-mère, elle connaît rien à la religion juive. Et en même temps, la fois où je lui ai demandé, je sais plus comment j'avais formulé ça, d'où elle venait ou comment elle s'identifiait, elle disait, mais je suis juive. Mais en même temps, sans rien connaître de ce que ça voulait dire être juive, enfin, je crois qu'elle arrivait pas très bien à définir. Juste, elle se sentait plus juive que égyptienne. Après, je connais très mal l'histoire juive, mais j'ai l'impression que c'est une histoire qui parle beaucoup d'exil. Enfin, il y a eu énormément de périodes migratoires et d'exil pour les juifs. Et je crois que ma grand-mère, elle a hérité de cette sensation d'appartenir à rien, mis à part à cette identité-là, mais qu'elle ne sait pas très bien elle-même définir. Et que encore moins ma mère et encore moins moi. Enfin, en fait, on n'est pas très, très au fait, quoi. Le fait d'avoir aucune culture, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que je me sens pas juive, sinon je pense que je serais renseignée et plus à même de pouvoir en parler, mais non, je me sens pas juive. Je sais juste que, de fait, par héritage, je suis juive, mais je sais pas très bien ce que ça veut dire, mis à part ce que je viens de dire là. C'est arrivé à un moment où j'ai eu très peur qu'elle meure. Je sais pas, je me suis dit en fait elle est âgée et j'ai pris conscience que voilà, elle était pas forcément encore là pour très longtemps. Et j'avais jamais trop j'avais essayé de poser des questions sur son histoire, mais c'était toujours un peu épars, j'en saisissais que certains bouts. Et je me suis dit que j'avais envie plutôt d'aller lui poser des questions. J'ai découvert l'objet du Zoom. Je connaissais pas cet objet qui est donc ce micro-enregistreur. Et je me suis dit, bah tiens, tant qu'à lui poser des questions, peut-être c'est bien d'avoir une trace de ça quelque part. C'était pas l'enjeu de d'écrire un spectacle quand je suis allée lui poser des questions. C'était l'enjeu de comprendre un petit peu d'où je viens, d'où elle vient, c'est quoi cette histoire qui est la sienne. Et puis j'avais pas du tout de ligne directrice pour démarrer tout ça. Et j'y suis allée un peu le nez au vent, quoi. Donc voilà, on s'est posé dans son salon plusieurs fois, je lui ai posé des questions, elle m'a répondu, raconté, lu des choses, fait ouvrir des cartons, regardé des photos, montré. Après, elle était déjà assez âgée quand on a fait ça. Elle est décédée 2 ans après les premiers enregistrements. Et je sentais que ça fatiguait beaucoup. Elle avait plus toute la même énergie. C'est quelqu'un qui avait quand même une très bonne mémoire, mais il y avait des moments où elle perdait un peu le fil. Donc voilà, on a fait ça pendant 2 ans. Enfin, en tout cas, sur ces 2 années, on s'est retrouvés à des moments pour ça, quoi, pour enregistrer et raconter. Et puis ensuite, peu de temps avant sa mort, je me suis dit que j'avais envie d'écrire un spectacle avec ça, enfin, que j'avais envie d'en faire une forme artistique et de raconter cette histoire à d'autres personnes, de la partager. Mais c'est venu après. J'ai fait une première version de ce spectacle. Elle était encore vivante. Et j'avais du mal à écrire le spectacle, j'avais du mal à imaginer la fin de ce spectacle. C'était pas évident, puis j'étais beaucoup seule. Enfin, j'ai fait intervenir des personnes qui sont venues regarder pour me donner des retours, etc. Mais j'arrivais pas trop j'étais un peu seule avec ça. Et puis en 2020, elle est décédée. Et peu de temps après, je me suis dit que j'avais envie d'aller au bout de ce spectacle et d'écrire une forme où j'étais contente de ce que j'avais. Et donc j'ai sollicité une personne qui m'a proposé de m'accompagner, donc Marie-Lou, pour écrire ensemble l'histoire. Et à partir du moment où elle était aussi morte, c'était plus facile pour moi d'écrire. Ça a fait un switch, quoi. D'un coup, j'ai réussi à écrire quelque chose. Il y avait une forme d'inquiétude et de préoccupation de retranscrire la vérité et l'exacte vérité de son vivant. Parce que même si je ne savais pas trop quand et comment elle pourrait le voir et tout ça, je me disais que je n'avais pas envie de lui faire défaut dans ce que je racontais. J'arrivais pas à être très au clair de qu'est-ce que j'avais envie de raconter. Et quand elle n'a plus été là, c'est comme si d'un coup, j'étais héritière de cette mémoire. Et c'était à moi, d'une certaine manière, qui avait commencé et entamé un travail en amont, d'aller au bout et de restituer cette mémoire, ou en tout cas de manière non exhaustive. Bien sûr, il y a plein de choses qui m'échappent encore, mais en tout cas, il y avait quelque chose entamé et je sentais comme une sorte de devoir d'aller au bout de cette démarche. Et j'avais d'un coup plus tellement l'inquiétude de savoir si c'était l'exacte vérité ou non, comme si le fait qu'elle soit plus là, c'était ma vérité à moi. Ma mémoire, ce qu'il en restait, ça crée comme une forme de distance avec tout ça, ou une sorte de réappropriation personnelle de cette histoire. Faire de la scène, ça m'intéresse pour cette question-là de la transmission. J'aime beaucoup les récits de vie communs des personnes qu'on croise, et que l'histoire de ma grand-mère, elle est très intime et personnelle, et en même temps, elle est assez... J'ai pas envie de dire universelle parce que c'est pas le cas, mais en tout cas elle touche à plus grand que l'intime et le personnel. C'est une histoire d'exil, c'est une histoire d'expulsion liée à des enjeux politiques, c'est une histoire aussi d'amour entre elle et mon grand-père, et c'est une histoire de mort. C'est des grands thèmes pour moi qui peuvent toucher à plus large que moi, à plus large que mon histoire de famille. Je pense qu'aussi j'ai ce biais-là, quand j'écris, quand je rencontre, quand je discute, quand je lis, souvent dans ma tête ça vient créer un désir de « Ah, comment artistiquement je pourrais restituer cette matière que je trouve très intéressante ou, je sais pas, ou captivante ?» Et l'histoire de ma grand-mère, elle me paraissait faire du sens pour ça. J'avais envie aussi... de continuer, enfin ça c'est une autre dimension, mais de continuer à la faire exister. Je pense que, en fait, je suis tellement heureuse chaque fois que je joue ce spectacle de l'entendre, en fait. C'est une manière que mes enregistrements, ils restent pas sur un disque dur dans un fin fond d'une boîte. Chaque fois que je joue ce spectacle, elle est là, quoi. Elle est là avec sa voix, ça la rend hyper présente, en fait, et ça me met très fort en lien avec elle. Quelque chose que je ressens assez fort dans mes expériences liées à la mort, c'est que la personne, elle disparaît au moment où on arrête de parler d'elle. Donc pour moi, une manière que ma grand-mère continue à être vivante et existe quelque part, c'est de parler d'elle, ou de la raconter, ou qu'elle raconte elle-même, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, était important dans la transmission et la diffusion de cet objet de témoignage. Ça touche pas que moi, ça contamine aussi d'une certaine manière. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir à la fin en me disant que ça leur donne envie d'aller interroger leurs grands-parents, que ça leur donne envie d'aller regarder un peu ce qui s'est passé aussi du côté de leur propre histoire, et que je crois que moi je suis heureuse que ça donne envie, enfin que ça puisse donner envie de faire ça aussi. J'ai fait une formation professionnelle qui a duré 4 ans, où je me suis spécialisée dans un agrès qui s'appelle le mât chinois, qui est une grande barre qui fait 6 mètres de haut et sur laquelle je fais des acrobaties. Et voilà, j'ai écrit ce spectacle avec cet agrès et les enregistrements de ma grand-mère. Donc c'est un spectacle de... Moi j'appelle ça cirque autobiographique, et je mets auto entre parenthèses. Ça a été un gros enjeu pour moi de légitimer la présence du mât chinois dans ce récit. Quelle présence physique j'avais envie d'avoir, parce qu'en fait, le centre, ou en tout cas le point de départ, c'est quand même ces interviews de ma grand-mère et les échanges qu'on a eus. Et je me suis beaucoup posé la question de qu'est-ce que venait faire un mât chinois au milieu de tout ça, et qu'est-ce que je pouvais raconter physiquement avec cet agrès. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est assez clair, mais en fait, je l'ai construit un peu au fil du temps. Je l'ai construit en jouant ce spectacle, en discutant avec des gens. Et je pense que maintenant, la présence du mal raconte pour moi quelque chose d'assez net. Mais il y a eu beaucoup de fois où j'ai eu envie de l'enlever de ce spectacle, parce que je ne lui trouvais pas sa légitimité. Après, les parties physiques, pour moi, c'était plus clair. Enfin, en tout cas, tout ce qui était au sol, les parties dansées. Je crois que ma grand-mère, comme je l'ai dit, je l'ai quasiment toujours connue assise dans son fauteuil. C'était quelqu'un qui avait presque plus de mobilité. J'aime bien raconter qu'elle est restée dans son fauteuil et qu'elle a arrêté de bouger après la mort de mon grand-père. Au vu de ce qu'elle raconte, elle. Pour moi, le mouvement, c'est tant que je bouge, tant que je danse, tant que j'ai cette fluidité-là et cette possibilité de me mouvoir, j'ai l'impression que je vis. Et j'ai l'impression que c'est en relation avec l'immobilité de ma grand-mère, enfin, que j'avais aussi envie de raconter. En fait, elle vivait même en étant immobile. Et pour moi, bouger, c'est être vivante. Je crois qu'il y avait quelque chose qui était un peu miroir comme ça sur la question du mouvement et le parallèle que je fais avec le fait de vivre ou de m'arrêter. La danse pour moi c'est quelque chose qui me fait beaucoup beaucoup de bien, qui est très très important, pratiquer ça dans les moments où les choses elles sont un peu plus dures à traverser, ça m'aide beaucoup. Donc mettre du mouvement à l'endroit du récit de vie, c'était très important pour moi.
اسمك دايما في فمي يا أمي يا أمي يا أمي اسمك دايما في فمي من يوم اللي عيني شافوا الدنيا شافوك يا أمي العزيزة
Les Mémoires dans la peau, une émission présentée par Jean David sur Campus Grenoble.
La suite de cet épisode est l'adaptation radiophonique du spectacle « Il y a des choses que j'aurais aimé te dire » créé et joué par Nour Pierioti que nous venons d'entendre. Marie-Lou Félix, également membre de la micro-compagnie, a aidé à la mise en scène et à la dramaturgie. Le spectacle reprend les enregistrements des entretiens que Nour a réalisés avec sa grand-mère Loris. Je remercie chaleureusement Nour pour la confiance qu'elle m'a accordée à la réalisation de cette adaptation. Mais sans plus attendre, vous pouvez vous imaginer une fin d'après-midi d'été baignée d'une douce chaleur, assis dans le public face à une scène composée d'une vieille malle, d'un fauteuil sur lequel Loris aurait pu s'asseoir, d'un escabeau, d'un mât chinois de plusieurs mètres de haut trônant au milieu du décor. Le silence se fait alors, quelques bruits résonnant loin. La musique commence, annonçant le début du spectacle. Et Nour entre en scène.
Acte de décès numéro 363. Loris Léon. Date et heure du décès, le 26 mars 2020 à 21h00. Lieu du décès, en son domicile, 44 rue de Lourcq, Paris 19e arrondissement. Nom du défunt, Léon. Prénom, Loris. Né, le 3 décembre 1927. À Caire, Égypte. Profession, retraité. Domicile, 44 rue de Lourcq, Paris 19e arrondissement. Fille de Jacques Léon, décédé. Situation matrimoniale. Veuve de Nessim, dit Raymond Biriotti. Déclarant, Franck D., âgé de 51 ans, démarcheur, exerçant à Pantin, Seine-Saint-Denis, 10 rue des Pommiers. Date et heure de l'acte, 27 mars 2020 à 13h40. Après lecture et invitation à lire l'acte, nous, Myriam A., fonctionnaire municipale déléguée dans les fonctions d'état civil par le maire de Paris, 19e arrondissement, avons signé avec le déclarant. Pendant longtemps, je me suis appelée S. S, c'est un prénom d'origine latine relativement commun en France. Dans les années 90, on compte 26 239 enfants qui naissent déclarés sous ce prénom. S, c'est mon prénom de naissance. Un prénom qui m'a toujours fait un effet dissonant. Aussi, pendant longtemps, lorsque je disais « Salut, je m'appelle S », la question qui venait souvent un peu droit derrière, c'était « Mais tu viens d'où ?» Et je répondais « Ben, de France. » Et on me relançait « Oui d'accord, mais enfin, t'as des origines, non? Tu viens d'où? » Et un peu provoque, je réaffirmais « Bah, je suis française, d'origine française. » Et puis, un jour est venu où j'ai eu envie de tenter de moins dissonner, et je me suis demandé quel prénom je choisirais pour voir. Assez intuitivement, ce sont des prénoms d'origine arabe qui me sont venus. Nour, c'est un prénom mixte du Moyen-Orient. Dans les années 90, en France, on compte 869 enfants qui naissent déclarés sous ce prénom. Un jour, j'ai choisi de m'appeler Nour. Et étonnamment, depuis que je dis « Salut, je m'appelle Nour », on me demande beaucoup moins souvent d'où je viens. Comme si ça donnait une forme d'explication ou un élément de contexte. Comme si ce prénom « Nour » allait beaucoup mieux avec ma tête. Le Caire, Égypte. Le marxisme gagne du terrain dans les milieux juifs. Âgé d'à peine 18 ans, Loris rejoint le groupe communiste MDLN.
MDLN, c'était le mouvement de libération nationale fondé par Henri Curiel. Tu sais, on chantait, on discutait de politique, on faisait des sorties. Rien, c'est-à-dire une sorte de couverture, si tu veux.
Elle y rencontre Nisso, l'homme avec qui elle partagera sa vie.
Et dans le communiste, tu voyais une issue, en tout cas des solutions.
On parlait un peu dans les discussions, où on parlait de qu'est-ce que c'est que la révolution communiste, comment ils allaient libérer le peuple.
Face à la montée du fascisme, le MDLN propose un chemin de lutte contre les inégalités, dans ce pays où règne une grande pauvreté. Par divers moyens et dans la clandestinité, ils se battent en faveur de l'indépendance et contre l'impérialisme. Ils œuvrent à l'éducation politique de la classe ouvrière afin de proposer des perspectives d'émancipation. De longues périodes de grève s'ensuivent. Ces grèves sont réprimées par le gouvernement en place. Rapidement, certains leaders politiques, notamment du MDLN, sont emprisonnés.
Je ne réalisais pas la peur. La peur est venue après. Quand c'était raconté que j'ai caché des documents le jour où je suis partie rejoindre papy, je savais que c'était illégal. je savais que si on le voyait, je pouvais l'être arrêtée. Là, j'ai eu peur. Il n'y a pas de doute. Mais tout ce qu'on me demandait, j'étais prête à le faire.
Un jour, les forces de l'ordre frappent à la porte de Nissot. Il se retrouve lui aussi derrière les barreaux. Alors là, je fais juste une toute petite pause pour être sûre que tout le monde est au clair avec le storytelling. Nissot, que vient d'évoquer Loris, c'est en réalité Nessim Biryotti, le grand amour de ma grand-mère. Et donc, par la force des choses, mon grand-père. Avant d'arriver en France, Nessim Biryotti, né en Égypte, était apatride. On raconte que de fil en aiguille, aussi loin que remonte l'arbre généalogique, de la Grèce à l'Égypte en passant par la Palestine et la Syrie, Biryotti s'est devenu Biryotti, a d'abord perdu un R, récupéré un T, laissé un S derrière, et de fil en aiguille, Nessim est arrivé Biryotti. Quand il est arrivé en France dans les années 50, Nissot s'est fait rebaptiser Raymond, Raymond Biryotti. C'est donc la version francisée du grand amour de ma grand-mère. Et donc, par la force des choses, la version francisée de mon grand-père. Moi, personnellement, Nissot, je ne l'ai pas connu. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais on a en commun ce point d'avoir choisi chacun notre propre prénom.
J'avais été à la prison et je regardais les fenêtres de loin et il m'a fait ça. Je pense que j'ai reconnu sa main parce qu'il était grande main, il m'a fait ça de loin. Et moi, j'étais le cœur palpitant.
18 mois. C'est le temps que passe Nissot en prison. Il est accusé d'être juif et d'avoir collaboré à la lutte anti-impérialiste, aux côtés des communistes. Pendant ce temps, Loris continue à s'activer contre le pouvoir en place et rejoint la lutte pour le droit des femmes. Avec elles toutes, Loris ressent le besoin de dénoncer les réalités oppressives, intimement liées à la question coloniale. Et puis, elle continue à s'investir dans les actions du MDLN. Nissot étant enfermé, Loris et lui se marient par procuration. Suite au mariage, Nissot reçoit dans sa cellule une petite enveloppe. À l'intérieur, il y a une photo. Loris porte une robe blanche faite de briques et de brocs et un petit voile dans les cheveux. En voyant la photo, Nissot ne la reconnaît pas. C'est son compagnon de cellule qui lui dit « C'est Loris, c'est ta femme, et maintenant vous êtes mariés. »
yo te quiero.
Parfois, je me demande où est-ce que j'aimerais que mon corps soit après ma mort. C'est une question très 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 difficile pour moi. Mourir, ça veut dire être à un seul et même endroit pour toujours. En tout cas, si tu choisis l'option tombe. Enfin, pour moi, choisir d'être à un seul et même endroit pour toujours, ça veut dire mourir. Bon, et là, on tourne en rond. Enfin bref. En tout cas, quand on meurt, ça pose la question d'où on vient pour y retourner, voire y rester. Mais passons. Dans mon storytelling, la mort, c'est pas vraiment maintenant, et là, on en était à leur mariage.
En 1948, après de longs mois de cachot, Nisso signe le formulaire portant la mention « aller définitif sans retour ». Ni une ni deux, il se retrouve dehors. Il est encore menotté et encadré par les forces de l'ordre lorsque Loris le retrouve à Alexandrie. Les voilà sur le point d'embarquer vers leur destinée. Dans sa valise, Loris a emmené son passeport hollandais. Quant à Nisso, il voyage avec un passeport dit Nansen, les papiers réservés aux apatrides.
C'était la condition où il restait au camp, où il partait dans le pays de qu'il voulait. Mais comme on ne pouvait pas dire « on va en Israël », que nous n'avions pas la nationalité française.
Donc en fait, il est sorti de prison parce qu'il a accepté de partir de l'Égypte.
L'Italie s'était portée garante de nous donner un visa avec probablement un groupe de juifs qui voulaient sauver les juifs d'Égypte.
Sur le site http://www.tourisme-marseille.com, on peut encore lire quelques vestiges de l'histoire du camp. Situé à l'angle du chemin de Sormiou et de la traverse de la Jarre, accolé au centre pénitentiaire des Baumettes.
Nous avons pris un bateau italien et sur le bateau, arrivé au détroit de Messine, le commandant reçut un mail, ça n'existait pas à l'époque. Il a reçu un
télégramme.
Un télégramme lui disant « Surtout, ne touchez pas le port italien, détournez-vous en France. » Il lui a dit « Mais j'ai des personnes qui sont expulsées d'Égypte. » Et tout le groupe a été dirigé sur le port de Marseille dans un camp. Pareil que pour l'Italie. En partant pour Israël.
Le camp comprenait 13 bâtiments rudimentaires répartis sur 13 hectares. Chaque bâtiment mesurait 3,50 m de large, 6,50 m de long et 3,50 m de haut.
Opposant au régime du roi Farouk. Et voilà comment le papy fichier communiste a été un jour ramassé, parce que communiste et juif.
En 1966, les bulldozers raseront le camp.
Et c'est le camp que toi tu as...
Le grand Arenas.
Arenas, je ne me rappelle plus.
À Marseille.
Alors, quand on est arrivé là, on était d'ailleurs, lui et moi, jeunes mariés, logés sous un escalier.
Aujourd'hui, il ne reste plus aucune trace de ce lieu de transit, ayant accueilli des milliers de femmes et d'hommes en partance vers un ailleurs inconnu.
Il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de... Dans ma famille, on ne se sentait pas égyptien.
Et vous vous sentiez quoi ?
Juif.
Après quelques semaines passées au camp du Grand Arenas, Loris et Nisso décident de ne pas embarquer dans le prochain bateau pour l'Israël.
Ou Palestine,
Israël. Bref, ils s'enfuient du camp et rejoignent Paris.
Que le Caire, c'était les chameaux.
Et le souk.
C'est ça. vraiment arriéré. Comme il n'y avait pas beaucoup de ni beaucoup de réfugiés, ni beaucoup de réfugiés orientaux, tu vois. Donc pour eux, c'était nouveau. Comment des Égyptiens qui parlent si bien français, ils lui ont fait raconter d'autres vies là-bas. Mm. Alors ils lui ont dit, voilà, on est obligé de vous emprisonner, mais ne soyez pas soyez tranquille, on vous met dans une pièce, et un soldat pendant 2 heures à la porte. Au bout de ces 2 heures, vous venez, on vous donne 3 mois d'essai pour essayer de légaliser votre séjour. Un séjour de 3 mois.
Durant ces 3 mois, Nisso a trouvé du travail grâce à l'un de ses cousins. Au fil du temps, Loris et lui se sont installés dans cette vie parisienne. Les saisons, les enfants, l'argent...
Oui, mais du coup, j'imagine que c'était pas simple comme décision dans un contexte où c'était interdit de se dire que t'allais partir en Suisse avorter.
Ah non, je ne le disais pas.
Oui, mais à toi-même. Et à
ah
papier.
Oui, oui. Non, c'était la seule solution. Aller en Suisse ou en Espagne ou en... Jusqu'à présent, d'ailleurs.
Oui. Non, aujourd'hui, c'est légal d'avorter.
Oui, mais... Ah non, c'est pour la mort.
Oui, pour l'euthanasie.
Oui, l'euthanasie. Quand Alain et Diane sont nés, j'étais tellement noyée que c'était impossible pour moi d'envisager un troisième enfant. Les deux fois, c'était arrivé trop vite.
T'as pas appréhendé, toi ?
Non, parce que je me disais, je n'en veux en tous les cas pas. Je ne peux pas assumer. Il me disait, on va être bientôt trop vieux pour avoir encore un enfant et je voudrais avoir un autre enfant.
Et à l'époque, qu'est-ce qui t'a permis de te dire que t'allais le...
La terreur d'avoir 5 enfants, c'est bien a été désiré, contrairement à ce qu'elle imagine.
Oui, mais il est
personnel.
Il a jamais été très présent non plus. C'est marrant, ça fait écho un peu au caractère de papy, je trouve.
Il avait des faces très diverses, mais il n'était pas facile. Il n'était pas facile parce que c'était un homme qui avait eu une enfance perturbée, une jeunesse perturbée. Moi, j'étais profondément amoureuse de lui. C'était pas l'homme ouvert que j'aurais aimé. Mais je l'étais pour deux. Il me disait jamais je t'aime. Je le prenais mal. Quand je lui disais, tu me dis toujours quand ça va pas, mais est-ce que ça ne va jamais bien? Il me dit, mais quand je dis que ça va pas, c'est que tout le reste du temps ça va bien. J'ai dit, tu peux pas faire l'inverse. Chez moi, on était très expansifs. Voilà.
Mais oui, mais il t'aimait énormément lui aussi, mais c'est qu'il n'était pas capable de le...
De le dire.
Comme toi, t'en avais besoin.
Voilà. Et moi, j'avais un besoin expansif.
Ouais.
Énorme.
Tu veux que je lise celle qu'il a écrite ?
Oui.
Loris, chérie. Toute la semaine, j'ai reculé le moment d'écrire. À présent aussi, je me sens désarmée devant cette feuille blanche. Je me sens découragée, écrasée devant la tâche que tu m'imposes. Chaque jour, matin et soir, mon chéri, j'ai désespérément regardé dans la boîte aux lettres si tu n'avais pas envoyé une nouvelle lettre qui aurait apporté une nouvelle
que tu hésitais à donner.
Que chaque fois que la standardiste j'ai été tentée de t'appeler au téléphone, communication destinée à Ina, je me suis retenue parce que les larmes me montaient aux yeux lorsqu'il fallait répondre. Tu as trouvé ma lettre sincèrement que ton attitude était la même
faite de grief à sens unique.
Non.
Tu trouves
quoi que tu en dises, la présence de tiers t'amène à te durcir.
Tu me reproches mon indifférence.
Et moi qui n'ai plus un instant de solitude, qui me sens observée,
tu mélanges
commentée, je n'ai même plus la possibilité de trouver auprès de toi cette attitude.
Je ne l'ai pas acquis ces jours,
cette chaleur. Qui penserait bien des blessures et me permettrait de revenir.
Et je crois que tu le savais dès
le premier jour. Ne serait-ce qu'en partie, la Loris
que tu
ne te l'ai jamais cachée.
Quant à savoir pourquoi, il faudrait un psychanalyste.
Loris, chérie,
je ne veux pas essayer de t'accabler, mais je me demande sérieusement si nous ne sommes pas arrivés à une impasse. Je considère comme une chose très grave pour notre foyer le fait qu'après presque 9 ans, nous ne soyons pas parvenus à un équilibre entre nos deux personnalités.
Mon amour. D'accord. Et dis-toi bien qu'il commence d'une façon lumineuse, mon ami. Parce qu'ils sont là. Les enfants, s'ils viennent, sont là. Et on a passé Noël ensemble. Ma chérie, je t'adore. Mon amour de Maurice, comment vas-tu? Nous ici on caille.
Un amour dans la bouche, un bel oiseau dans les cheveux. J'entends vibrer ta voix dans tous les bruits du monde, dans les mains du soleil, tous les corps qui s'éveillent grelottent à l'idée de retrouver leur cœur.
C'est un fauteuil rond comme son corps, sur mesure on pourrait dire. Il l'englobait tout entière, C'est un fauteuil marron, comme les taches de vieille sur ses mains. Assortie à elle, on pourrait dire. Elle s'y confondait tout entière. C'est un fauteuil doux comme sa peau, et velours comme ses hairs roulés. Roulés comme des gâteaux égyptiens. C'est un fauteuil plein comme son chagrin. Elle ne l'a plus quitté lorsque Nisso est parti, emporté dans un lit d'hôpital. Lit blanc, et propre, et sans histoire. Comme personne.
Un jour, il me pose la question. Madame Bigetti, je vais vous poser une question un peu discrète. Pourquoi vous n'avez pas refait votre vie après le décès de papa? Parce que pour moi, ça s'est arrêté net, le chagrin. L'appel aux larmes, si tu veux, 4 ans. Alors, j'ai rigolé, je lui ai dit, c'est triste. Hein. Le jour où je ne pleurais plus, mon mari, je n'avais plus personne, je n'étais plus comme estime. Oh, je te jure. J'ai zappé des choses que j'aurais aimé te dire. On faisait partie de ce parti. Il y avait des
ne force pas à parler, hein, sinon on parle de, plus tard. Hein.
D'autres groupes, mais ce sera toujours comme ça. Je suis de plus en plus essoufflée. Ah. À ce moment, il y avait... un peu essoufflée.
Tu me dis si tu veux qu'on fasse une pause.
Non. Ça...
Peu de temps après la mort de Loris, j'ai fait un rêve, dans lequel elle revenait nous voir pour un dernier au revoir. Je la voyais arriver au loin avec tous ses enfants et petits-enfants autour d'elle. Elle s'est approchée de moi et m'a proposé de monter sur la dune qui était derrière nous. Je la prends par le bras et on monte doucement à son rythme. Une fois arrivée en haut, il y avait une vue incroyable, un ciel rouge, orange, jaune, le coucher de soleil au loin, les falaises qui plongent droit dans la mer. Un rêve, quoi. Et là, elle me parle du déraillement, elle raconte l'eau qui monte, qui arrête pas de monter et qui finit par faire rouiller le système. Elle me dit qu'on va droit dans le mur. Je regarde en bas, la falaise qui chute dans la mer, et je suis prise d'un vertige. C'est là que je décide de lui annoncer que j'ai changé de prénom. Je me redresse, j'ai pas envie de redescendre et je suis bien là, à côté de Loris. Et puis je me retourne vers la terre et là je vois en bas toute ma famille qui attend hyper en colère. Alors on redescend pour le repas qui était prévu et changement de rêve. Les Mémoires dans la peau, une émission présentée par Jean David sur Campus Grenoble.
Vous pouvez retrouver les dates des spectacles et l'actualité de la micro-compagnie sur leur site internet et leur page Facebook. Je vous invite à vous rendre sur la page de l'émission sur laquelle vous retrouverez toutes les informations sur les invités et la programmation musicale. Vous pourrez également réécouter les épisodes précédents. C'était Les Mémoires dans la peau, saison 2, épisode 9, intitulé « Il y a des choses que j'aurais aimé te dire » avec Nour Biriotti de la Microcompagnie, une émission de Jean David sur Radio Campus Grenoble. Thank you.
Thank you.